Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Deeply Rooted, la première de 2019. Encore une fois, on va mettre à l'honneur le rap US ce soir. Installez-vous confortablement et apprêtez-vous à bouger la tête. Pour cette nouvelle année, on ne change pas une équipe qui gagne. Je suis toujours accompagné de Joachim. Comment ça va, Jojo?
Tout va bien, très bien. Bonne année à tous.
Et de Momo, l'ami Mohamed, toujours là, présent.
Bah ouais, joyeuses années à tout.
Bravo, merci. Donc on espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous en avez profité pour rattraper les émissions de retard. On en est déjà au 7e épisode. Ça passe vite, c'est ce qu'on se disait avant d'enregistrer. On vous rappelle que tout est disponible d'ailleurs sur nos réseaux sociaux, notamment le Facebook Deeply Rooted FR et nouveauté maintenant sur les plateformes de streaming. Vous cherchez le nom de l'émission, voilà, dans les podcasts, sur Spotify et compagnie. Et on est là au menu ce soir. Le G-Funk, courant peut-être le plus connu, qui plus est en France.
Le plus connu de quoi? De tout le rap, tu veux dire?
Laisse-moi terminer, le plus connu, qui plus est en France,
je te contredis direct,
qu'on ait abordé jusque-là.
Qu'on ait abordé jusque-là, oui, je pense que là, on se situe plus dans le confort, dans la zone de confort de nos auditeurs, peut-être.
Voilà, donc on va sûrement évoquer des noms ou des sons qui vont vous dire quelque chose. Dr. Dre, Snoop Dogg, DJ Quick. Les amateurs de West Coast seront servis. Pour les autres, c'est difficile de passer à côté des sons de LA pour découvrir le hip-hop américain. Donc on espère qu'on va vous faire découvrir pas mal de choses. En trois mots, Jojo, est-ce que tu peux nous décrire ce qu'est le G-Funk?
Le G-Funk, c'est de la funk fait par des G's, donc c'est-à-dire des gangsters. Donc c'est en fait le gangsta rap qui se met à adopter des mélodies funk et un lifestyle plein de soleil, de weed, de fêtes et de cul et de toutes sortes de bonnes choses.
Ok, bon, un lourd menu encore une fois ce soir. On va vous balancer un premier son direct et on se retrouve juste après pour revenir justement sur son histoire et les douces mélodies qui l'accompagnent. On va se balancer
Bootsy Collins, I'd rather be with you.
Voilà, les origines. Il faut le préciser, c'est plutôt la musique qui a été samplée derrière, plus que, c'est le son originel, entre guillemets, puisque c'est du musicien de funk du groupe de George Clinton, Parliament. Voilà.
Allez, à toutes. Voilà, c'était Bootsy Collins avec I'd rather be with you.
Comme quoi, je suis pas le seul à te choquer, apparemment. Ouais.
Toujours cet accent magnifique.
Merci, merci, les gars. Donc, fini le sud des États-Unis, du moins pour l'instant. On s'envole pour cette émission du côté de la Californie. La West Coast avec son style et ses caractéristiques propres qui vont bien sûr influencer la musique dont on va parler aujourd'hui. Place au G-Funk ou Gangsta Funk, comme l'a expliqué Jojo en trois mots tout à l'heure. Juxtaposition de différents styles et en même temps création locale sans précédent qui va faire exploser au grand jour de nombreux mastodontes du rap US et créer la vraie patte West Coast. Pour comprendre cette musique, on va reprendre notre bonne vieille méthode d'analyse, c'est-à-dire comprendre d'où ça vient, pour expliquer comment ça a marché, et enfin voir ce qu'il en reste aujourd'hui aux States, mais aussi ailleurs, on aura notre petite page française, comme souvent. Et pour comprendre le G-Funk des années 90, c'est bien parce que ça correspond à notre époque, donc on a tous aussi un peu grandi là-dedans, détour obligatoire avec Jojo par la P-Funk, le P-Funk, j'imagine, des années 70.
Je ne sais pas si c'est très genré, mais on va dire la P-Funk, comme on dit la G-Funk. D'habitude, on fait un peu la musique du lieu dont on va parler, dont on parle, et on explique un peu ce qui s'est passé avant dans ce lieu-là. Cette fois, on va plus parler de la musique qui est écoutée, en fait, à cet endroit-là, donc à LA. Mais c'est pas forcément des musiciens de LA. Et en l'occurrence, le parrain de la P-Funk, qui est George Clinton, c'est pas du tout un mec de LA. Je crois qu'ils sont de Détroit, à la base, Parliament. George Clinton, pour moi, c'est vraiment le premier rappeur dans l'attitude, c'était dans les années 70, c'était de la funk, la pure funk qu'il faisait, mais s'il y avait vraiment tout un personnage haut en couleur, très extravagant, il se donne plein d'alias, tu sais, il a des millions de surnoms, Dr. Funkenstein, plein de délires comme ça qui sont assez drôles à suivre. Et donc, en fait, avant de donner naissance au P-Funk, il était dans un truc plutôt... funk et rock psychédélique. Il avait un groupe qui s'appelait Funkadelic. Il était assez inspiré par Sly Stone. Donc c'était plutôt au début des années 70 et vers le milieu des années 75 avec le groupe Parliament, donc sur plus ou moins la même formation, il commence vraiment à entamer ce qu'il appelle la P-Funk. Et en
ouais,
fait,
qu'est-ce qu'il veut dire psychédélique funk en
ouais, vrai. Oui, il y a toujours ce délire psychédélique, mais de toute façon, c'est très barré comme truc. En fait, la pochette de l'album Mothership Connection, qui est un peu la pierre angulaire, enfin la bible du P-Funk, si tu veux, sur la pochette, il est en train de conduire une sorte de Cadillac de l'espace, c'est une sorte de vaisseau bizarre, et enfin, c'est assez drôle. Et il y a de toute façon toujours des gros délires de science-fiction, il se met toujours en scène.
Est-ce que c'était un délire ou c'était un truc un peu secte? Enfin, parce qu'il y avait quand même un délire, je crois, sur les blacks qui allaient trouver leur...
Il y a un truc un peu émancipatoire, quoi.
Voilà, c'est ça, mais qui allait s'émanciper à travers le fait de partir avec ce vaisseau-mère dans l'espace.
Ouais. Il les mettait toujours en scène, de toute façon, que ce soit... Il avait fait un album aussi sur la Maison-Blanche qu'il avait appelé Chocolate City. En gros, il met les blacks dans les hauts postes et dans les trucs un peu où normalement dans l'imaginaire américain ils mettent tout le temps des blancs, tu vois, dans le cinéma, etc. Donc lui il reprend un peu tous ces codes là mais il met toujours les noirs en avant, donc c'est pour ça aussi que c'est une musique qui a très bien marché pour le public noir, parce que ça c'est en même temps fun, en même temps ça revendique complètement l'identité des noirs américains. Et donc voilà, il y a vraiment tout ce manifeste dans l'album Mothership Connection, où c'est vraiment, là, tu as toutes les bases qui sont posées. J'ai dit les bases, mais il y a aussi les basses, parce que justement, dans la G-Funk, ils vont beaucoup reprendre les lignes de basse qui sont hyper, tu vois, ça saute à mort, c'est sautillant. Des claviers, on appelle des claviers sifflants, tu sais, genre, tout ce que tu entends dans la G-Funk dont on va parler, c'est beaucoup les claviers, tu vois, qui sont...
assez aigus.
Ouais, aigus, tu vois, où tu n'entends pas les... Comment dire, tu sais, c'est hyper... ondulant, tu vois, t'entends pas les... C'est pas comme du piano, tu vois, où t'entends la différence entre deux notes, ouais. Là, ça swing.
C'est ça qui faisait un peu le bruit d'alarme, là
Ouais, ouais, voilà. Okay. Bien décrit, de manière plus parlante, on va dire. Et puis aussi, au niveau des envolées vocales, et de parce qu'il part vraiment dans des gros délires. C'est-à-dire que c'est très mélodique, mais c'est aussi complètement extravagant dans la façon dont il utilise sa voix. Mais aussi, et c'est aussi ça qui parle, je pense, au public noir américain, c'est que, et notamment des publics des quartiers populaires, c'est qu'il utilise vraiment beaucoup le lexique, l'argot et le slang de ces quartiers-là, quoi. Et qu'il incorpore ça dans sa musique, ce qui est un peu nouveau, parce que voilà, c'était pas le premier musicien des quartiers populaires à les mettre en avant, mais là vraiment, ce mélange de funk, des trucs hyper, hyper dansants, hyper sautillants, plus le slang, c'était assez nouveau. Et donc, ça, c'est vraiment l'inspiration principale du G-Funk, c'est ce monsieur, George Clinton, et donc tout ce qui a un peu gravité autour, c'est-à-dire notamment Bootsy Collins, qu'on a écouté. Tout à l'heure. Après, il y a un peu aussi plein d'autres trucs, mais généralement plutôt de la funk des années 70. C'est-à-dire déjà un peu Sly Stone, dont j'ai parlé aussi, les Ohio Players, et un peu le groupe Zap de Roger Troutman, ouais. Qui lui est plutôt connu pour sa talkbox. C'est le vocodeur avant l'heure, en fait. Tu mets ta voix dans une sorte de machine bizarre.
Qui synthétise la voix.
Ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà, donc la principale ascendance, si tu veux, du G-Funk, c'est bien George Clinton et le P-Funk.
Ok, donc ça, c'est années 70-80, ça cartonne plutôt sur la côte ouest. Et après, début des années 90, justement, on va avoir le début de ce mélange un peu détonnant, justement, entre les influences P-Funk et le son plus gangster, qui là aussi a émergé... quelques années auparavant, avec notamment le groupe NWA. Oui. Est-ce que tu peux en dire deux mots? On va pas s'attarder.
NWA, notamment,
qui sont sortis il y a pas longtemps.
On doit forcément en parler, parce que c'est quand même l'acte de naissance, même si c'est pas les premiers non plus, mais c'est un peu quand même l'acte de naissance en tant que scène de la West Coast, avec l'album Straight Outta Compton, ouais, c'est ça, comme le titre du film. Donc c'est avec Eazy-E, Ice Cube, Dr. Dre et MC Ren, et genre je sais plus si j'en...
J.Y.L.A.
exactement, ouais. On va pas repartir sur refaire toute leur histoire, mais bon, en gros, voilà, c'est ce groupe là qui perce vraiment nationalement et qui fait vraiment qui crée l'émergence du mouvement gangsta rap, etc.
avec des paroles plutôt dures.
Ouais, voilà, c'est hyper cru, hyper, hyper violent. Et...
On avait le rôle de Ice Cube qui était dans le rôle de saccageur, quoi. Genre, enfin, le mec qui allait pas de main morte. Mm-hmm.
Et du coup, on a donc eux qui commencent à faire ça. Et donc, il y a un mélange entre les deux qui commence à se faire. Et avec un son donc groovy, des mélodies sympas, etc. Avec un petit peu, à contrario, des paroles assez dures. Et on va retrouver ça déjà dans les premiers sons. Chez NWA, j'avais noté le son, par exemple, Always Into Something, qui est vraiment déjà...
En gros, NWA, en fait, le son de G-Funk, pour moi, il se construit vraiment à partir de la fin des années 80. Dr. Dre, tu sens que progressivement, ses productions, elles incorporent de plus en plus de funk. Ça s'entend déjà dans l'album de D.O.C., qui est aussi un classique, No One Can Do It Better, où là, ça s'entend, on n'est pas dans le G-Funk, hein, mais ça, tu commences à entendre de plus en plus ces sons-là. Dans le dernier album de NWA aussi, il y a le morceau dont tu as parlé, Always Into Something. Il y a aussi une reprise du morceau qu'on a mis, I'd Rather Be With You. Donc tu sens vraiment l'influence de la funk, et notamment de George Clinton, qui est de plus en plus présente. Il y a aussi, à l'époque, du coup, début des années 90, le groupe Above the Law, qui est signé chez Ruthless, donc le label de NWA. Et voilà, tu sens qu'ils bossent un peu ensemble, tu sens que... Tu sens que Dr. Dre, il produit pas mal avec le mec qui a un nom un peu imprononçable de Above the Law, qui est Colt 187, je ne lancerai pas dans la concession anglaise, Colt 187 Hum. Et ils partagent vraiment leur passion pour la P-Funk, et ça, c'est un peu comme ça qu'ils ont créé la G-Funk, qui arrive surtout avec l'album de Dr. Dre, qui est The Chronic, et dont je pense qu'on va s'épancher... plus lourdement ensuite.
Ouais, exactement.
Plus longuement.
Bah, quand il crée ça, il faut juste pour reclouer encore une fois le côté géographique, etc. Il faut dire que donc eux, le but c'est de se détendre, de représenter son quartier, etc. Et surtout de représenter le mode de vie de Los Angeles. C'est ce qu'on essaye de montrer à chaque fois, que chaque courant musical, c'est vraiment le produit de son environnement. On parlait de la P-Funk tout à l'heure, qui a marqué notamment tous ces rappeurs qui vont faire la G-Funk ensuite, parce que leurs parents écoutaient ça. Snoop Dogg, on parlera tout à l'heure, et sa mère, elle faisait des fêtes tous les soirs, c'était ça qu'ils écoutaient, donc c'est pour ça que ça a marqué vraiment, et qu'à New York, ils n'écoutaient pas ce genre de musique, et donc il n'y a pas eu cette influence autant de Parliament, Funkadelic, etc. Et pourquoi réutiliser les sons de Clinton aussi, pour la qualité de ses compositions, mais également parce que il leur permettait plus facilement, il était moins dur en affaires, on va dire, donc il les
faisait croquer, quoi.
Voilà, lui, disons que lui prenait avec plaisir le fait de qu'on réutilise, on en reparlera tout à l'heure, mais des morceaux de sa musique, des samples, ou le fait de les rejouer, etc. Autre influence locale dont on va devoir parler, c'est la conduite, parce que encore une fois, contrairement à New York où c'est les transports en commun, etc., là, Los Angeles, vous pouvez pas y passer.
C'est la ville de la ride, quoi.
Vous allez forcément vadrouiller en voiture, et pour ça, il faut du son pour bouger la tête et vous occuper, et pour ça, G-Funk est parfait.
Un peu comme Jul à Marseille, quoi.
Voilà, exactement, c'est le produit de l'environnement de Marseille.
Bah oui, respectons-le aussi.
Et enfin, juste pour rappeler que si c'est peut-être moins revendicatif que ce qui peut se faire à l'Est dans les paroles, etc., ça, le développement du G-Funk se fait quand même dans le contexte des émeutes à Los Angeles, de l'affaire Rodney King, etc., et notamment des violences policières. Les policiers de LA sont quand même particulièrement connus pour être assez violents et durs, notamment envers les populations noires.
En tout cas, l'histoire des émeutes, ouais, c'était par rapport à ça aussi.
Ouais, bien sûr, ouais. Ils frappaient et maltraitaient des gens impunément. Donc, même si dans les textes, c'est moins explicite, on ressent quand même ce contexte social dans pas mal de sons. Et voilà, et avant d'aborder, peut-être, donc on va aborder Death Row, etc.,
ouais.
Dr. Dre.
Mais j'aimerais juste, même rebondir et finir sur ce que tu disais. Au final, je crois qu'NWA, c'est le premier album... où il y a le sticker Parental Advisory Records, truc dans le genre, où,
oui, c'est vrai.
Il y a quand même cette portée-là aussi. Tu peux pas être pionnier dans ce domaine-là, mais il y a eu un impact à ce niveau-là. Et il faut savoir qu'ils ont aussi reçu une lettre d'avertissement du FBI pour leur police. Donc, en fait, sans même vouloir se politiser, ils étaient confrontés aux bras armés de l'État. Quoi.
Bien sûr, et du fait de leur parole explicite aussi. On se met un premier son de Dr. Dre, Let Me Ride, qui était sur The Chronic, sorti en 92. On va revenir dessus parce que c'est vraiment une des pierres angulaires du rap West Coast. Et vous allez retrouver justement dans ce son toutes les caractéristiques sonores pour identifier le G-Funk, les
sans
mélodies.
Sample ultra évident de Parliament.
Voilà, exactement. Et donc les mélodies, les samples de funk, les gros synthés, les refrains chantés. Voilà, donc vous allez voir, c'est la recette du G-Funk, on se retrouve juste après. Gros classique avec l'admirail de Dr. Dre, le jeune André, dont Momo va nous parler en long et en large, parce que c'est quand même un personnage incontournable. À toi la parole.
Alors, on va pas s'attarder non plus très longtemps sur le jeune André, parce que on va parler de Death Row plus précisément, comme tu le disais, qui est the label de la G-Funk, on va dire ça comme ça. Et c'était clairement le but de Suge Knight. Alors faites attention parce que je vais envoyer plein de noms, mais c'est une très belle histoire, l'histoire de ce label. Donc Death Row, ça a été créé au moment où Dr. Dre est parti de Ruthless Records quand il était avec NWA. Donc ça, c'est la base. Il a été recruté par Suge Knight, qui est l'ancien garde du corps de The D.O.C., dont Jojo parlait tout à l'heure, qui est un rappeur de la West Coast. Donc on part de ce postulat-là. Il décide de créer le label Death Row, qui à la base s'appelle Future Shock Records, donc un peu moins facile à retenir et à prononcer. Il décide de mettre Dre aux manettes. Ça, c'est la première partie de l'histoire de Death Row. Faut savoir que Dr. Dre, il a un cousin, ou un demi-frère, je sais plus
trop. Son demi-frère.
Son demi-frère, ouais. En tout cas, ça reste quand même un truc familial, qui est Warren G, qui à l'époque n'était pas connu, mais qui maintenant l'est énormément, et qui est un pionnier de la G-Funk aussi, de la West Coast, qui est à ce moment-là avec Snoop Dogg et Nate Dogg, qui, pareil, n'étaient pas connus à ce moment-là. Et ils formaient un groupe qui s'appelait 213.
Ouais, ils sont ensemble à l'école et ils commencent à poser. En fait, Snoop Dogg était quand même le mec talentueux, etc. Warren G était plutôt le mec qui vendait un peu le truc. Et Nate Dogg, on reviendra, mais ils se sont dit qu'il avait une petite voix sympathique. Donc, ils commencent à vadrouiller ensemble.
Faut quand même préciser que le 213 n'a rien à voir avec le 113 de Vitry, enfin, il me semble.
C'est un peu les ancêtres de Rimka, AP et Moco Beach.
Pardon. Non, c'était le code postal du sud de la Californie.
C'est, l'espèce de code de l'area, comme ils appellent, de l'arrondissement, un truc dans le genre. Bon. Bah, c'est un peu comme le 113 au final, quoi. Version West Coast. Mais bon, peu importe. Il s'avère qu'ils traînaient ensemble et que Warren G et Dr. Dre étant de la même famille, Warren G lui fait écouter des démos de sons du groupe de 113 avec Snoop et Nate Dogg. Et il tombe sous le charme absolu de Snoop Dogg et de Nate Dogg. Il décide de les faire signer sur Death Row. Mais là où Suge Knight est méchant, et il commence à l'être, c'est qu'il ne veut pas signer Warren G. Donc c'est un peu naze, et Warren G se retrouve à travailler avec les autres, mais pas signé sur le label Death Row. Soit, donc, mais bon, il n'est pas rageux pour un sou, il file quand même des coups de main à Dre pour, à mon avis, le plus grand projet de la G-Funk. Peut-être pas le plus grand, mais clairement la pierre angulaire, le truc fondateur, l'album fondateur, qui est The Chronic de Dr. Dre, qui sort fin 92 et qui est clairement un séisme dans le rap game. On est sur quelque chose de novateur, parce que certes il y avait les prémices de ce style de la G-Funk avant, sur les touches qu'il apportait sur d'autres albums, et tu les entendais même sur NWA, mais le fait que là ça soit un projet full G-Funk,
c'est ça. Mais je pense qu'il y a vraiment la volonté de... Justement, cet album, il est, je pense, créé vraiment avec la volonté de créer un nouveau style et d'implanter complètement ce nouveau style. En fait, il y a un truc qui est un indice qui est marquant là-dedans, c'est qu'en fait, dans l'outro de l'album, il reprend une mélodie de George Clinton qui dit normalement « Make my funk the P-funk », et là, il dit « Make my funk the chronic ». Tu vois, ils n'appellent pas ça encore « G-funk », mais tu sens qu'il y a, voilà, ils veulent créer un nouveau style de funk qui soit, en gros, relier la funk et le rap et en faire un truc... qui leur soit propre. C'est ça un peu le projet à la base.
Et c'est clairement... tout à fait. Et c'est tellement novateur que d'un... Alors, tout ce qui est nouveau fonctionne pas forcément, mais c'est tellement novateur que ça c'est un raz-de-marée, le truc. Genre, ça se vend des millions d'albums. Il y a tout ce style de vie de la West Coast qui est montré au monde entier et auquel tout le monde adhère. Il y a deux gros singles qui accompagnent l'album, qui sont Nothing But a G-Tang et Bitches and Shit, avec Snoop d'ailleurs. Tout ça, c'est des prods pour la plupart de Dr. Dre. Et c'est récompensé par des Grammy, c'est un succès. Enfin, c'est le succès de l'année 92. Et Death Row, en fait, sur 4-5 ans, ils vont sortir un album majeur par an. Le premier étant The Chronic. Celui d'après en 93, c'est Doggy Style de Snoop Dogg, du jeune
immense
Snoop.
Immense classique, intemporel. Enfin, c'est dans le top. Dans moi, c'est dans mon top. Ça restera dans mon top très longtemps. Doggy Style.
Ah ouais, c'est. Enfin, après, tu sais, il y a toujours cette question du premier album qui est ultra réussi, mais bon, je me permets de placer ça. C'est SCH qui disait qu'en fait, le premier album, c'est pas qu'il est forcé d'être réussi, c'est que c'est 10 ans de travail avant qui aboutissent au premier album et ça donne un truc assez fou. Bon. Que vous ayez mis SCH ou pas, ça c'est un autre problème. On retourne sur la West Coast pour le coup. Mais ouais, Doggy Style, énorme classique. G-Funk à tout va. Nate Dogg qui est là sur pas mal de refrains. Et...
Bah déjà, il y avait l'équipe en gros, parce que Dr. Dre, il lance, en fait, ce qu'il lance avec Death Row aussi, c'est un énorme projet un peu futuriste aussi, où il se dit je vais prendre tous les mecs talentueux. Donc, il y a Snoop Dogg, il est déjà dessus.
Vois, ça marque la rupture avec NWA. Et puis, oui, il montre à la face du monde des grands talents comme Nate Dogg et Snoop Dogg, surtout Snoop Dogg, qui explose complètement et qui derrière, c'est pour ça aussi que Doggy Style, bon, qui est extrêmement bien produit. Et voilà, je serais très vite, je pourrais parler des années sur cet album-là, mais bon, clairement, c'est une star, il ne peut que devenir star, quoi.
Oui, il y a le talent de Snoop Dogg, comme on dit, et après, derrière, Dr. Dre, qui est quand même connu pour ça, et dit aussi, que tu évoquais tout à l'heure, qui prend aussi Snoop Dogg sous son aile.
Ghostwriter, pour le coup.
Voilà, c'est ça. Donc là, il est entouré d'un super producteur, de dit aussi, qui, pour les textes, etc., qui travaille avec lui. Il y a Suge Knight derrière, qui lui fait partie de Death Row, la partie musicale, il n'y connaît pas grand-chose, mais disons que c'est un facilitateur, quoi. Les négociations avec lui, ça se passe...
Le roi de la magouille, ouais, clairement.
Voilà, donc lui, il ouvre les portes, on va dire, plus ou moins
avec, légalement. Avec plus ou moins de violence, on est d'accord là-dessus. Et en parlant de violence, d'ailleurs, ce qui a aidé aussi, ce qui a fait aussi le buzz de l'album Doggy Style, c'était que Snoop, à ce moment-là, il était en procès ou machin pour un homicide ou un truc dans le genre, pour lequel, au final, il a même pas été libéré, parce qu'il n'a pas été condamné pour cette affaire-là. Mais voilà, ça aussi... Ça a fait le buzz de l'album. Et comme tu disais, ouais, Suge Knight, on n'est pas dans le musical, on est sur... ouais, tu t'appelles ça comme tu veux, mais c'est un mec qui fait des liaisons, il connecte les gens. Et son but, clairement, c'était de faire de Death Row la Motown, quoi. Ça n'aura pas duré aussi longtemps, on vous spoil pas, mais on vous expliquera après. Et donc là, on est en 93 quand ça sort. En 94, il y a un autre album... classique de la G-Funk qui est G-Funk Era, enfin Regulate G-Funk Era de Warren G qui avait travaillé très longtemps, bah, comme on l'a dit, avec toute la toute
il a toujours tourné
Death Row.
Un peu autour de ces mecs là vu que c'est, oui. Il est vraiment un des meilleurs potes Nate Dogg et tout, mais le fait qu'il ait pas signé, ça a provoqué des petits soucis. Il a continué dans son coin et là
Le sort sur Def Jam.
Def Jam qui New lui York. Donne ça, donc ça fait un petit peu un séisme dans le truc. On se dit putain, un label de la côte est qui fait sortir un gros classique comme ça.
Bah c'est encore une fois une question d'opportunité. Ça, on en avait parlé à Memphis et à ce genre d'endroit, les gens qui sont obligés de bouger pour trouver des opportunités. Bon, là, c'était pas fait plutôt un manque de... Je sais pas si c'était de reconnaissance, pas forcément de moyens, mais voilà. Le fait est qu'il sort son classique avec le single éponyme Regulate, avec Nate Dogg encore, qui est vraiment au four et au moulin et qui vous assure des refrains soyeux, doux, de crooner, quoi. Et... voilà, ça fait d'ailleurs rager Suge Knight à ce niveau-là, qui vont avoir mis casser des bouches et rager et pas bon à grand-chose, quoi. Mais la roue tourne, comme on dit. Là, c'était 94. 95, on continue toujours dans la lancée. Il y a des mecs qui travaillaient avec aussi Dr. Dre, Nate, Snoop et toute la clique, qui s'appellent Corrupt et Das Dillinger, qui ont formé le groupe The Dog Pound. Et eux aussi étaient dans cette veine G-Funk, mais bon, les mecs étaient un peu plus excités, un peu plus bruts que Snoop et Dre, quoi. Enfin, moi, je considère ça, les mecs étaient...
C'est plus dans la veine de Doggy Style, qui est quand même plus sombre déjà que The Chronic. Et là, ouais, on est clairement dans un truc plus street, en tout cas, c'est sûr.
Mais après, ouais, en termes de son, c'est les descendants de The Chronic et Doggy Style. Savoir que Das Dillinger produit aussi... et qu'il est, il peaufine un peu ce que Dre a fait. Bien sûr, il y a eu la participation de Dr. Dre, mais Das Dillinger fait aussi du bon boulot. Et ils sortent un seul album, par contre, sur Death Row, qui est Dog Food, avec le single, j'ai oublié le nom du single, on le retrouvera plus tard, on vous le donnera, mais il y a un single qui a porté l'album. Et voilà, et Moi, je considère que ça commence à être la fin de Death Row à partir de ce moment-là. Parce que, enfin, pas tout à fait. Il y a encore Tupac. Je peux pas dire que c'est la fin de Death Row s'il y a encore Tupac, mais on va pas s'attarder sur Tupac aujourd'hui parce que l'histoire est longue et.
Bah, il est un peu à côté de ça. Lui, on peut pas dire que ce soit un rappeur G-Funk, même s'il a, il a eu des prods G-Funk, notamment justement sur ses albums Death Row et évidemment All Eyes on Me, avec deux, trois
California
morceaux.
Love, c'est
Oui, voilà,
quasiment tout le monde a
California Love,
écouté ça
complètement. Ouais.
et c'est.
Et je veux dire, je trouve que c'est pas le mec que tu vas associer direct à G-Funk, même si, bien sûr, il était là à ce moment-là, à LA, etc. C'est un des rappeurs un peu plus majeurs de cette époque-là. Mais c'est. Voilà, c'est moins. Il va dire qu'il a incorporé ça, mais il n'a pas fait partie de l'émergence de ce phénomène.
Et puis c'est pas un California born and raised, contrairement à tous les autres, comme Roger Troutman qui vient de, je sais plus, de l'Ohio, je sais plus trop d'où il vient.
Exactement, de l'Ohio, ouais.
Mais ouais, Tupac n'est pas de Californie. Donc c'est pas de la G-Funk.
De New York.
Mais voilà, donc c'est pas la fin de Death Row, mais comme disait Jojo, il est un peu à côté de ça, il profite des bons plans de G-Funk. Après on retire rien du tout à la carrière de Tupac, attention.
Bon, et puis All Eyes on Me, c'est un des plus grands albums de l'histoire aussi. Hein. On va pas.
Oui, il est quand
Il
même
s'agit
tenté
pas
du
du tout
truc.
de
Ouais.
dire le contraire.
Et Death Row, au final, il y a des membres qui vont partir petit à petit. Pour moult raisons, il y a ces histoires avec la East Coast et New York qui sont déjà, enfin, on fout un peu d'huile sur le feu avec les mecs de Da Dog Pound qui sortent un titre où ils clashent un peu les mecs de New York sans les clasher. Dre se fait la malle de son côté parce qu'il en a marre des manières dont Suge Knight fait du business, c'est-à-dire casser des bouches, menacer, tout le temps être dans la. Ouais, je sais pas, dans ce mode de bandit, quoi. Et voilà, ce qui fait que c'est Daz Dillinger qui se retrouve un peu à la tête de Death Row à un moment et qui essaie tant bien que mal de faire vivre le label Suge Knight qui se fait incarcérer.
Bon, on rappelle quand même ce que Suge Knight, alors je ne suis pas forcément au point sur les faits, etc., mais bon, il est quand même dans un rôle un peu trouble sur la mort de Tupac et de Notorious Big, quoi.
Oui, bah après, en plus, c'est lui qui lance les hostilités à Est-Ouest. Et... De toute façon, il le disait, c'est comme Death Row. Il y a un reportage qui est sorti sur le G-Funk, justement, sur YouTube, qui s'appelle G-Funk, tout simplement, il me semble, qui est sur YouTube Premium, qui revient beaucoup plus sur cette partie. Et on voit, en fait, l'ambiance était bonne. C'était des potes, des cousins, etc., qui faisaient du rap ensemble. Et à partir du moment où Suge Knight met son nez dedans, vraiment, là, ça rigole pas du tout, quoi. Et après, à partir du moment où il commence à lancer les hostilités. À droite, à gauche et à monter les uns contre les autres, c'est vrai que c'est parti un peu en n'importe quoi.
Ils sont tous fait la malle. Dr. Dre est parti former Aftermath Records qui signera plus tard, enfin sur Interscope, Eminem, 50 Cent et tout. Snoop, comme on l'avait dit à l'époque, enfin quand on avait fait l'émission sur la Nouvelle-Orléans, va signer chez Master P. Daz et Corrupt se barrent un peu dans leur coin. Warren G était déjà sur Def Jam dans son coin. Il a un peu, enfin il a monté le label et il l'a saboté quoi. C'est lui qui a fait couler le navire concrètement. Mais faut quand même rappeler que voilà, y a Death Row, c'est sur 4-5 ans, 18 millions d'albums, un style, un mode de vie, un style de musique qui a, ouais, y a eu un avant et après G-Funk, grâce à Death Row, quoi.
Carrément. Bah, on va s'écouter un nouveau son qui produit par Dr. Dre, j'imagine.
Yes, c'est le single de Snoop Dogg, Ain't No Fun, sur lequel vous pouvez retrouver Kerrupt, justement, Warren G. Et Snoop Dogg. Donc là, vous avez la
Et
totale.
Nate Dogg au refrain, évidemment. Le grand.
Incontournable, yes. Allez, à toutes. On se retrouve après pour parler des autres acteurs.
West Coast!
Vous êtes toujours sur Deeply Rooted. On est toujours au cœur du rap US et de la West Coast. On vient de s'écouter
Ain't No
Ain't
Fun.
No Fun de Snoop Dogg. Et Jojo, tu vas nous parler des DJ Quick, notamment.
Oui, essentiellement de DJ Quick, parce que je suis très fan. En fait, c'est un peu moins. Ça reste assez connu. C'est un peu moins mainstream que Death Row, tout ce qu'a fait Death Row, qui reste aujourd'hui quand même connu enfin, qui a été écouté par énormément de gens. DJ Quick, c'est plus un truc de quand même vraiment juste gros kiffeur de son West Coast pur et bien. Enfin voilà, juste, c'est vraiment du son de ride, quoi. Il a quand même une carrière extrêmement prolifique. Je crois qu'il a sorti une bonne dizaine d'albums, dont au moins les quatre premiers qu'il a sortis dans les années 90 sont vraiment excellents, quoi. Enfin, c'est sans faute. Lui, pour le coup, il est resté dans le délire G-Funk jusqu'au bout. C'est-à-dire que même ce qu'il fait aujourd'hui, même si bon, il m'a pas beaucoup marqué, son dernier album qu'il a sorti, je crois, il y a à peu près un an, avec le rappeur Problème. ça, on peut considérer qu'il est resté dans le truc G-Funk. Donc c'est vraiment resté, lui il fait ce truc de son côté, de toute façon tout ce qui l'intéresse lui c'est de faire des sons, voilà, c'est le lifestyle californien, le soleil, le cul, les fiestas, la fête, enfin tout ça, c'est plus vraiment du son pour se marrer, pour rigoler, pour passer un bon moment quoi, c'est moins gangsta, bon, tout ça tu vois, il y a vraiment cette image là quoi, mais c'est vraiment très sympa. Lui à la base il a l'opportunité de signer chez Ruthless, donc le label de Eazy-E, enfin de NWA, etc., dont on a parlé un peu. Mais il a préféré aller vers Profile, plutôt underground, plus rester un peu dans sa vibe et tout. Je pense qu'il a senti aussi que chez Ruthless, bon, c'était pas Huge Night, mais il y avait quand même pas mal d'emmerdes aussi. Les contrats étaient peut-être pas, étaient peut-être pas les plus bienveillants.
Ouais, Eazy-E, c'était apparemment un peu en carotteur aussi dans le... Un peu un carotteur dans le genre, quoi. Enfin, peut-être pas bon, on n'est pas sur la violence de Soulj, mais on était sur un petit filou, quoi.
En tout cas, voilà, lui, il commence quand même, finalement, à peu près en même temps que la plupart des artistes, de la scène de G-Funk des années 90, quoi. Et moi, je considère même que sur son premier album, Quick is the Name, qui est déjà très, vraiment, c'est plein d'ambiances différentes, c'est vraiment très mélodieux, il y a un peu un son un peu reggaeton. Et puis il y a pour moi le premier beat G-Funk, mais vraiment purement G-Funk, qui est le morceau Tonight. Excellent morceau d'ailleurs, que je recommande à tout le monde. Et puis globalement, sa discographie, vraiment, notamment l'album Safe and Sound, c'est vraiment de la régalade de A à Z. On s'éclate. Il y a notamment là-dessus le morceau Dollars and Cents, qui est un clash en fait, enfin un diss record à l'encontre de MC8, qui est un autre rappeur. Qui est moins connu, qui fait pas vraiment de la G-Funk, qui était dans le groupe Compton's Most Wanted. Et lui, on peut peut-être, si ça peut parler à des gens, il a joué un rôle dans Menace to Society. Un rôle d'ailleurs qu'il représente bien, parce que c'est vraiment un jeune fougueux qui influence, on va dire, de manière assez négative le personnage principal du film. On va dire qu'il le tire pas vers le haut, quoi. Et lui, voilà, avec DJ Quick, il se cherchait un peu. Et le morceau de la Zensen, c'est une réponse. Et on considère un peu qu'il a, en un morceau, il a un peu enterré le game, quoi. Bon, depuis, tout va bien. Ils se sont à peu près réconciliés. Mais après, c'est vrai que c'est beaucoup. De toute façon, en Californie, il y a beaucoup d'histoires de 10, etc.
Rien que les embrouilles entre rappeurs. Ouais,
Entre tous les membres de NWA, au début il y avait Ice Cube qui s'est barré, qui a commencé à clasher NWA. Après il y a Dr. Dre qui s'est barré, ils se sont clashés avec Eazy-E qui les a défoncés sur Real Motherfucking G's. Puis etc., etc. Ça n'arrête pas en fait. Pourtant qu'ils se tirent tous, dans les pattes. Généralement ils se réconcilient, ils finissent par se
réconcilier. Oui, voilà, puis ils s'en sortent plus ou moins bien, quoi. La plupart, ça n'a pas non plus enterré leur carrière.
Oui, ça va. Donc ça reste, je dirais pas bon enfant, mais parce que des fois c'est assez violent. D'ailleurs, je citais Above the Law tout à l'heure, il y a eu une grosse prise de tête, je crois, à un moment donné, où ils ont sorti un peu les guns, etc. Et c'était chaud, quoi.
Bah oui, là-bas, quand on parlait de gangsters, c'est vrai qu'on l'a pas redit pour les gens qui connaissent Los Angeles, mais les gangs là-bas...
Ah bah Bloods and Crips, hein, ça...
Les affiliations aux gangs, je sais plus, justement, c'est dans ces années-là, au bout d'un moment, c'était une personne sur deux était forcément affiliée à un de ces deux gros gangs principaux, et là-bas, on parle de gangsters vraiment qui se tirent dessus, puis il y a eu l'arrivée du crack, etc. aussi, donc...
Ouais, bah justement, DJ Quick MC8, en fait, je l'ai même pas dit, mais c'est vrai que c'est ça aussi à la base, c'est qu'à la base... DJ Quick et Blood, il me semble, j'espère que je dis pas de bêtises, il va pas me tirer dessus aussi. Et MC8 est un Crip, et puis voilà, il fait une semi-ligne contre les Crips, et du coup MC8 répond, etc. Enfin, après ça monte
en engrenage, on est pas partir en cacahuète.
Là, ils sont plus dans une tentative de réunification dans le rap avec The Game et Snoop Dogg, de dire stop le bullshit au niveau des gangs, il y a trop de mères qui pleurent, trop de frères qui partent. Venez, on fait des trucs ensemble. Sans compter qu'il y a aussi à Los Angeles, il y a des gangs de Mexicains, il y a des bikers, machin. Enfin, ce mode de vie de gangster, de gang même plus précisément, c'est ancré dans la ville de Los Angeles. À New York aussi, hein, mais elle est très fortement.
Ouais, bah c'est les drive-by, etc. Ça vient un peu aussi beaucoup de là-bas, comme tu dis. Il y a la culture de la voiture. Donc c'est vraiment, enfin, je sais pas si vous avez vu. Le film avec Ice Cube, le classique là.
Menace to Society.
Non, c'est
Car Wash.
Mais non, il est tout jeune, tu le vois avec, avec ses cheveux, tu sais, il a les cheveux un peu longs, un peu frisés. Ah oui, d'ailleurs, ça me fait penser que il y a énormément de rappeurs qui se faisaient des permanentes là-bas. C'était quand même très drôle. Genre, dans les premières années où Snoop Dogg apparaît, tu le vois avec...
D'ailleurs, oui, parce qu'on n'a pas... Pour revenir sur Snoop Dogg, c'est vrai qu'au niveau du style vestimentaire, etc., de ce qu'ils montraient, pareil, ça avait, ils étaient un peu... C'était nouveau, quoi.
Totalement. Ah oui, avaient, donc, eux, c'était genre chemise un peu longue, fermée au niveau du
peu,
col, Dickies.
Ouais, Snoop Dogg,
oui.
ça tombait jusqu'en bas.
À New York aussi, ils avaient ce style baggy. Tu vois les premiers clips de Mobb Deep, les mecs qui font 1m60, leur t-shirt en fait 1m50, ça lui arrive en dessous les rotules, tu vois, c'est fin.
C'était Boys in the Hood, hein, le film,
ah oui,
quand même. Grand classique. Et là, bon, clairement, on voit un peu ce lifestyle californien, mais plutôt de manière négative, voilà, avec la violence et dont le protagoniste essaye de s'émanciper. Mais voilà, enfin...
Donc DJ Quick, pilier, allez l'écouter, parce que déjà, il fait du bon
son.
C'est
Sound, franchement, tu t'ennuies pas une minute, quoi.
Et on va s'écouter après Dollars and Cents, justement.
Justement, ouais.
Avant ça, peut-être citer deux, trois autres noms qu'on n'a pas dit, faute de temps.
Il y a les mecs de la West Side Connection, qui est un groupe qui s'est créé, justement, en fait, dans les années de la G-Funk aussi, en 96, qui réunit Ice Cube, ex-membre de NWA, acteur dans... Boys in the Hood, voilà, gros rappeur de la West Coast aussi, et qui était avec WC et Mac 10, qui, alors, ils sont pas forcément dans la G-Funk en termes de sonorité, par contre, ils sont totalement dans cette espèce de gangster rap et de lifestyle californien. Ils ont fait des sons avec de la G-Funk, mais c'est pas leur main truc, c'est pas le...
Ouais, WC, il a aussi beaucoup collaboré avec Coolio, qui lui, bon, quand t'entends un peu ses premiers albums, Coolio, il a fait un morceau très connu, là, je sais plus comment il s'appelle, donc tout le monde connaît.
Gangsta Paradise.
Ouais, voilà, exactement. Mais quand t'écoutes un peu son album, son premier album, c'est quand même très G-Funk aussi, c'est assez sympa, c'est plus gentillet, on va pas se mentir. Après, il y a aussi, tu parlais des gangs mexicains, c'est vrai que ça me fait penser que j'avais oublié d'en parler, mais il y a South Central Cartel, je crois. C'est un groupe mexicain qui fait de la G-Funk, c'est plus violent pour le coup, mais c'est sympa.
Voilà, The Dove Check, on n'en a pas parlé non plus.
Dove Check, je crois que c'est des mecs qui étaient plutôt dans l'entourage de Warren G. Il y a aussi Twins, qui est très sympa.
Et n'oublions pas ces dames. Donc moi, j'avais noté aussi The Lady of Rage, qui est quand même qui apparaît et sur
et
The Chronic.
Death Row,
chez Death Row, et qui apparaît et dans The Chronic et dans Doggy Style, et qui était dans le mouvement G-Funk aussi. Donc voilà, après, comme d'hab, on enverra des trucs sur les réseaux sociaux pour approfondir, et on vous enverra une petite playlist. En attendant, du coup, on s'écoute le son de DJ Quick de Las and Sense, et on se retrouve après pour parler des influences et de ce qui reste de ce style aujourd'hui. À
yes,
toutes.
Exact.
Vous êtes toujours sur Deeply Rooted. On vient de s'écouter le son de DJ Quick de Las and Sense. On va aborder dans cette dernière partie les influences du G-Funk, justement, en France et aux États-Unis. Moi, j'avais noté que c'était la fin des années 2000 environ. On peut dire qu'on passe un peu à autre chose là-bas. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ouais, bah après, le G-Funk, pour moi, c'est devenu tellement un genre musical à part, c'est-à-dire qu'il y a des rappeurs qui, même encore aujourd'hui, tu vois, c'est un peu marginal, mais ils font leur G-Funk de leur côté, parce que voilà, ça a tellement marqué qu'aujourd'hui, voilà, il y en a qui se disent, bah ouais, moi je fais de la G-Funk, et voilà. Mais c'est moins sur le devant de la scène, en tout cas, depuis... Ça fait un bon moment, une bonne quinzaine d'années, ouais, que c'est passé.
Parce qu'après, c'est quoi la vague d'après ? C'est gangsta rap, mais...
Après, en Californie, ça s'est quand même beaucoup calmé dans les années 2000. Il n'y avait pas vraiment de grosses têtes d'affiche à part The Game, mais The Game, c'est déjà particulier.
Parce que la vague Aftermath, Eminem, tout ça...
Ouais, mais c'est pas... Là, en fait, disons qu'en se barrant de... En partant de Death Row, déjà, Dr. Dre, il a commencé à concocter un nouveau type de son. Et
voilà.
Le son, il n'est pas G-Funk. Il est West Coast, c'est des...
Ouais.
En fait, c'est devenu un son made in Dr. Dre.
Oui, c'est ça.
Mais c'est pas G-Funk, quoi.
Et quand on parle de son West Coast, on parle de ça, mais c'est vrai qu'on passe un peu à autre chose. Dans les artistes qui perpétuent un peu ça, justement, tu disais qu'ils font ça dans leur coin, qui tu pourrais citer, par exemple.
Ah non, bah après, c'est des trucs vraiment obscurs. Après, pour faire dans la continuité, parce que ça se fait partout, je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a des... Mais justement, même en France, etc., il y a plein qui font un peu tout dans leur coin. Après, aujourd'hui, pour moi, les héritiers un peu du truc lifestyle, tu vois, soleil, voiture, tout ça, la ride, en fait, c'est plutôt les Don Kennedy, les Nipsey Hussle, un peu ce genre de rappeur, quoi.
D'accord. Ouais, c'est eux, vraiment. Même, tu vois, de la G-Funk, tu retrouveras tout le temps sur les sons... les mecs de Los Angeles, t'auras tout le temps une track par-ci par-là sur un album, et si ça sort pas, c'est sur une tape, ils font une face B, machin. Mais t'en auras tout le temps. Après, voilà, comme on disait.
Vince Staples, il en a pas incorporé aussi dans ces trucs.
Ouais, voilà, t'en auras toujours. Après, ouais, les vrais héritiers, pour moi, c'est Dom Kennedy.
Bah après, il y a toute la vague, en fait, tout simplement, de rappeurs qui ont grandi en écoutant ça, comme on disait tout à l'heure, et qui donc se reconnaissent. Enfin, qu'on peut retrouver des éléments visuels ou au niveau de la musique qui rappelle le G-Funk. Alors, on parlera justement, on fera un peu dans ce principe de continuité pendant la prochaine émission. On restera à L.A., et on s'intéressera
on plus
pareil.
En détail sur justement ces YG et Dom Kennedy. Etc.
Voilà, on sera un peu plus dans la nouvelle vague, les gens plus récents, enfin nouvelles, pas par rapport à ce qu'on a évoqué aujourd'hui, mais donc les gens qui continuent à faire ce son West Coast, le son de voiture. Perpétue
ce lifestyle, quoi.
Voilà, exactement. Donc on vous donne rendez-vous dans la prochaine émission. On fait un petit aparté sur la France pour vous rappeler que ici aussi. Des gens sont intéressés à ça. Momo, t'as vu notamment un reportage qui a été fait sur Nova, sur
ouais.
LPHA.
Ouais, très gros reportage qui dure une petite heure, mais qui est savoureux de ouf, parce que d'un, tu vois l'influence de la G-Funk sur la France, que ça crée un petit microcosme où t'avais des groupes dans chaque département, Basse-Clique dans le 9-2, Val-de-Marne Rider avec, c'était le crew d'LPHA, LMC-Clique dans le 91, ils sont tous retrouvés autour de ce délire de G-Funk et de Ride. Bah, ils ont popularisé un peu le terme, la Ride dans le langage un peu street français, ouais. Tu vois, dans l'argot. D'ailleurs, petit clin d'œil, il y a Fabrice Eboué qui fait partie de cette épopée, donc allez voir ce documentaire. Et il y a d'autres mecs qui sont aussi dans ce délire-là. Expression directe, le groupe de Kerry James, qui était dans des sonorités un peu West Coast G-Funk. Rof, qui est grave dans ce délire-là, parce que autant par ses allusions à la côte ouest, genre Tupac et tout, même sur des beats, tu vas retrouver un peu ces sonorités G-Funk. Après, le plus gros pour moi... enfin. Il y en a d'autres, hein. Alliance Ethnique, Ghetto Fabulous Gang aussi avec Alpha 520 qui sont dans ce délire-là.
Et on finira sur un son du Ghetto Fab.
Un sacré son, ouais. Et mais pour moi, le mec qui a fait de la G-Funk en France, c'est Doc Gynéco. Concrètement, t'écoutes Première Consultation, tu comprends, comprends d'où ça vient.
Oui, dans certains refrains, etc. Oui, on voit clairement.
Même lui, il était dans ce mode-là, genre grand adepte. Parce que je l'ai vu dans la vraie vie et on croirait qu'il est petit sur les plateaux télé. Bah, pas du tout, mon gars. Genre, il doit faire un bon 1m90, il est carré d'épaule.
Il avait l'air assez impressionnant quand il tabassait l'animateur de radio. Là, comment ça
il l'a pas tabassé, mais en tout cas, il lui a dit.
Oui, il s'est énervé.
Bouffé là. Pardon. Et ouais, pour moi, c'est le mec qui a fait de la G-Funk en France, c'est Doc Gynéco et avec les mecs du secteur 1.
Et du coup, LPHA, allez voir le reportage du Move, parce que c'est intéressant. Lui, il est allé là-bas, etc. Il a collaboré avec les gens qui faisaient cette musique.
On vous partagera ça, mais c'est très très bon documentaire sur l'impact même du rap US en France. Pas que
on vous met ça dans la semaine sur nos réseaux sociaux, notamment notre page Facebook, DipriotiDFR. On vous balance généralement des sons, tout ce qu'il y a pour compléter l'émission. On vous balancera la playlist aussi, comme d'habitude. Vous pouvez retrouver le podcast de l'émission rapidement, les podcasts des anciennes émissions aussi, n'hésitez pas. Et vous pouvez retrouver tout ça maintenant aussi, je le disais en début d'émission, sur les plateformes de streaming, Spotify et compagnie. Vous pouvez trouver dans la catégorie podcast notre émission. On va se quitter, comme on le disait, sur un son de Ghetto Fab, tous les quartiers. Et on vous donne rendez-vous dans un mois environ pour rester à Los Angeles et continuer sur du gros son.
G's up, house down, comme ils disent.
On prendra bien une bonne dose de soleil en hiver.
Allez, bonne soirée à toutes.
Peace.